Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 43 à 50 comprises. Lettre 43. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, ce 21 mai. Oh, que d'émotions Thérèse m'a fait éprouver! Je ne sais point ce qu'on veut de moi, ce qu'on peut en obtenir. Mon cœur succombe devant l'effort qu'on exige. Une lettre de vous est venue se joindre aux exhortations de Thérèse. Ne vous réunissez pas pour m'accabler. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Dois-je renoncer à Léonce? Le voulez-vous? Ah, ne le prononcez pas. J'ai pressenti que vous alliez approcher de cette horrible vérité dans votre lettre. Je tremblais de la lire. Et quand, par délicatesse, vous n'avez point achevé ce que vous aviez commencé, je me suis cru soulagé, comme si vous m'aviez affranchi de mes devoirs en ne me les exprimant pas. Je suis faible, je le sens. Je n'ai point les vertus qui préparent au grand sacrifice. Mon âme, livrée dès son enfance au mouvement naturel, qu'il avait toujours bien conduite, n'est point armée pour accomplir des devoirs si cruels. Je n'ai point appris à me contraindre. Hélas, je ne croyais pas en avoir besoin. Que n'ai-je l'exaltation religieuse de Thérèse? Mais quand j'implore le ciel, où ma raison et mon cœur placent un être souverainement bon, il me semble qu'il ne condamne pas ce que j'éprouve. Rien en moi ne m'avertit qu'aimer est un crime. Plus je rêve, plus je prie, et plus mon âme se pénètre de Léonce. Je vous ai mandé que M. de Serbellane avait quitté l'Italie pour s'établir en Angleterre, et que, désespérant de faire changer Thérèse de résolution, il ne voyait plus personne, et paraissait plongé dans la plus profonde mélancolie. Thérèse ne m'a pas prononcé son nom. Une lettre de Londres m'avait appris ces tristes détails, et je n'ai pas osé lui en parler. Qu'elle est noble et sensible, cependant, cette Thérèse qui s'immole à son devoir. Je la conduis après-demain à son couvent. Que n'ai-je la force de l'y suivre? C'est ainsi qu'il faudrait se séparer. Il est moins cruel de descendre dans ce religieux tombeau de toutes les pensées de la terre que de vivre encore en ne voyant plus ce qu'on aime. Le lendemain de l'arrivée de Thérèse, je passai la matinée avec elle. J'entrevis dans ses discours qu'elle se croyait coupable envers moi et qu'elle en éprouvait les regrets les plus amers. Mais elle craignait de m'en parler et reculait le moment de l'explication. Léonce vint le soir. Au moment où Madame Dervin entra dans ma chambre, il essaya de dissimuler l'impression qu'il éprouvait, mais elle n'échappa point au regard de Thérèse, et j'appris bientôt qu'elle savait tout ce que je croyais lui avoir caché. « Monsieur, dit-elle à Léonce, avec un ton de dignité que je n'avais jamais remarqué dans un caractère timide et presque soumis, je sais que, par le concours des plus funestes circonstances, c'est moi qui ai été la cause de l'erreur fatale qui vous a séparé de Madame d'Albémar. J'ai fait le sacrifice à Dieu de tout mon bonheur dans ce monde. Il ne m'a pas encore donné la force de me consoler des peines que j'ai causées à ma généreuse amie. Si je n'avais pas cru que de mon consentement vous étiez instruit de mon crime, à l'époque même de la mort de M. Dervin, je me serais hâté de m'accuser devant vous. Mais je n'ai découvert que depuis votre mariage la méprise cruelle que la délicatesse de Madame d'Albémar l'avait engagée à me taire. J'aurais pu, dès que je le soupçonnais pendant mon séjour ici, et lorsque j'en eus acquis la certitude à Bordeaux, par les diverses questions que vous fîtes à ma fille, j'aurais pu, dis-je, publier la vérité. Mais vous étiez mariée. Je ne pouvais rendre à mon ami le bonheur dont je l'ai privé. Et j'avais les plus fortes raisons de craindre que la famille de mon mari ne m'enlevât ma fille, et ne se permît pour me l'ôter, si je m'avouais coupable, le scandale d'un procès public. J'ai donc espéré que vous me pardonneriez d'avoir retardé la justification authentique que je dois à Madame d'Albémare jusqu'à ce jour où j'ai fait signer d'une manière irrévocable à toute la famille de M. Dervin les arrangements qui assurent la fortune d'Isor et m'autorisent à la confier à Madame d'Albémare. J'ai abandonné tous mes droits personnels sur les biens de mon malheureux époux, et j'entre après-demain dans un couvent. Je suis donc libre à présent de réparer aux yeux du monde le tort que j'ai pu faire à la réputation de Madame d'Albémare. Mais hélas, je le sais, je n'en aurais pas moins perdu sa destinée. Son cœur, inépuisable en sentiments nobles et tendres, n'a pas cessé de m'aimer. Vous, monsieur, ajouta-t-elle en tendant à Léonce, avec une douceur angélique sa main tremblante, serez-vous plus inflexible qu'un Dieu de bonté, qui, malgré mes offenses, a reçu mon repentir? Me pardonnerez-vous? Ô ma sœur, que n'avez-vous pu voir Léonce en ce moment? Non, vous ne m'auriez plus demandé de le quitter. L'expression triste, sombre, et presque toujours contenu qu'il avait depuis quelque temps, disparut entièrement, et son visage s'éclaira, pour ainsi dire, par le sentiment le plus pur et le plus doux. Il mit un genou en terre pour recevoir la main de Madame d'Hervins, et de la voix la plus émue, il lui dit « Pouvez-vous douter du pardon que vous daignez demander? Ce n'est pas vous, c'est moi qui suis le seul coupable. Et cependant je vis. Et cependant, elle souffre mes plaintes, mes défauts, quelquefois même mes reproches. Aurais-je le droit de vous en adresser? Non, sans doute, et j'en ai encore moins le pouvoir. Votre sort, votre courage, votre vertu, oui, votre vertu, entendez cette louange sans la repousser, me pénètre de respect et de pitié. Et si j'étais digne de me joindre à vos touchantes prières, je demanderais au ciel, pour vous, le calme que mon cœur déchiré ne connaît plus, mais qu'au prix de tant de sacrifices, vous devez enfin obtenir. Ah, dit Thérèse en relevant Léonce, je vous remercie d'écarter de moi votre haine. Mais ce n'est pas tout encore. Il faudra que vous m'écoutiez sur votre sort à tous les deux. Avant de vous en parler, je veux voir Madame d'Artena. Je ne connais qu'elle à Paris. C'est une parente de M. Dervin, elle est aussi l'amie de Madame d'Albémare. Je dois lui faire part de la résolution que j'ai prise. Voulez-vous avoir la bonté, M. de Mondeville, de me conduire demain chez elle? J'entre après-demain dans mon couvent, et 8 jours après, le 1er de juin, je prendrai le voile de novice. « Ciel, dans 8 jours, m'écriai-je. » C'est un secret, reprit Thérèse. Vous savez que, par les nouvelles lois, on ne reconnaît plus les vœux. Mais le prêtre vénérable qui me conduit a tout arrangé. Et si l'on ne permettait plus aux religieuses de vivre en France en communauté, il m'a assuré un asile dans un couvent en Espagne. Je vous demanderai, ma chère Delphine, de me conduire vous-même dans ma retraite avec ma fille. Je l'embrasserai sur le seuil du couvent pour la dernière fois. Et après cet instant, c'est vous qui serez sa mère. » Sa voix s'altéra en parlant de sa fille. Mais, faisant un nouvel effort, elle dit à Léonce. « Demain, à midi, n'est-il pas vrai, monsieur de Mondeville, vous viendrez me chercher pour me mener chez Madame d'Artena. » Léonce consentit à ce qu'elle désirait par un signe de tête. Il ne pouvait plus parler. Il était trop ému. Ah, c'est une âme aussi tendre que fière. Ce n'est pas l'amour seul qui le rend sensible. La nature lui a donné toutes les vertus. Thérèse le regardait avec attendrissement, et c'est lui, j'en suis sûre, dont elle aurait imploré la protection, s'il lui était encore resté quelque intérêt dans le monde. Le lendemain, Léonce et Madame d'Hervin revinrent ensemble à 4 heures de chez Madame d'Artena. Je vis, sans en savoir la cause, que Léonce avait été très attendrie. Thérèse, calme en apparence, demanda cependant à se retirer quelques heures dans sa chambre. Léonce, resté seul avec moi, me raconta ce qui venait de se passer. Il ne se doutait point du projet de Madame Dervin en la conduisant chez Madame d'Artenat, et dans la route, elle n'avait rien dit qui pût lui en donner l'idée. Ils arrivèrent ensemble chez Madame d'Artenat, et la trouvèrent seule avec sa nièce, Madame de R. Après que Madame Dervin eut annoncé sa résolution à Madame d'Artenat, elle lui fit le récit de la conduite que j'avais tenue envers elle, et attribuant à cette conduite un mérite bien supérieur à celui qu'elle peut avoir, elle avoua tout, excepté ce qui eût indiqué mes sentiments pour Léonce. Il m'a dit que de sa vie, il n'avait éprouvé pour aucune femme autant de respect que pour Madame Dervin dans le moment où elle croyait faire un acte d'humilité. Léonce a remarqué que Thérèse avait rougi plusieurs fois en parlant, mais sans jamais hésiter. Et je voyais réunie en elle, a-t-il ajouté, la plus grande souffrance de la timidité et de la modestie à la plus ferme volonté. Elle finit en déclarant à Madame d'Artenat que loin de demander le secret sur ce qu'elle venait de lui dire, elle désirait qu'elle le publiât chaque fois que ses relations dans le monde la mettraient à portée de repousser la calomnie dont je pourrais être l'objet. Elle se recueillit un instant après avoir achevé ses pénibles aveux pour chercher s'il ne lui restait point encore quelque devoir à remplir. Personne n'osa rompre le silence. Elle avait trop ému ceux qui l'écoutaient pour qu'ils fussent en état de lui répondre. Et comme sans doute elle craignait toute conversation sur un pareil sujet, elle se leva pour la prévenir en faisant une inclination de tête à Madame d'Artenay et à sa nièce. Elle sortit, sans leur avoir laissé le temps d'exprimer l'intérêt et l'attendrissement qu'elles éprouvaient. Vous concevez, ma chère Louise, combien cette scène m'a touchée. Admirable Thérèse, bien plus admirable que si jamais elle n'avait commis de faute. Que de vertu elle a tiré du remords. Combien elle vaut mieux que moi qui me traîne sans force sur les dernières limites de la morale, essayant de me persuader que je ne les ai pas franchies. Cette journée d'émotion n'était pas terminée. Thérèse n'avait pas encore accompli tout ce que sa religion lui demandait. Elle vint rejoindre Léonce et moi, et comme j'allais vers elle pour lui exprimer ma reconnaissance, « Attendez, me dit-elle, car je crains bien d'être forcée de vous déplaire. Mais demain je quitte le monde, et j'ai presque aujourd'hui les droits des mourants. Écoutez-moi donc encore. » Elle s'assit alors, et s'adressant à Léonce et à moi, elle nous dit « J'ai détruit votre bonheur. Sans moi, vous seriez unis, et la vertu contribuerait autant que l'amour à votre félicité. Ce tort affreux, ce tort que je ne pourrai jamais expier, c'est mon crime qui en a été la cause. Un malheur plus funeste encore, la mort de mon mari a été la suite immédiate de mon coupable amour. Ce n'est donc pas moi, non, ce n'est pas moi qui pourrais me croire le droit de donner de sévères conseils à des âmes aussi pures que les vôtres. Cependant, Dieu peut choisir la voie des pécheurs pour faire entendre des avis salutaires aux cœurs les plus vertueux. Vous vous aimez. L'un de vous est lié par des chaînes sacrées. Et vous vous voyez, et vous passez presque tous vos jours ensemble, vous fiant à la morale qui vous a préservé jusqu'à présent. Je n'avais point sans doute vos lumières, je n'avais point vos vertus, mais je formais néanmoins les mêmes résolutions que vous, et le charme de la présence affaiblit par degrés tous les sentiments honnêtes sur lesquels je m'appuyais. Delphine, faudrait-il qu'après être tombée, je vous entraînasse dans ma chute? Aurais-je à rendre compte de votre âme à l'Éternel? Ah, ce serait moi seule qui mériterais d'être punie. Mais vous ne seriez plus cet être incomparable que je retrouverai dans le ciel un jour si mon repentir m'y fait recevoir. Et vous, Léonce, et vous, continua-t-elle, Serez-vous heureux si vous entraînez mon ami? Si vous égarez ce caractère noble et vertueux que Dieu appellera plus particulièrement à lui, quand le malheur, ou ce qui est la même chose, une plus longue durée de vie lui aura fait sentir la nécessité d'une religion positive. Quand elle guidera ma fille dans le monde, au lieu d'y régner elle-même. Votre fille, m'écriai-je, pourquoi l'abandonnez-vous? Pourquoi m'en remettez-vous le soin? Je n'en suis pas digne. Delphine, généreuse Delphine, interrompit Thérèse, me serais-je donc si mal fait comprendre que vous puissiez penser qu'il existe un être au monde que j'estime plus que vous? Quand vous vous laisseriez entraîner par l'amour, je sais que votre cœur, resté pur, ne puiserait dans ses fautes qu'une connaissance plus cruelle, mais plus certaine de la nécessité de la morale. Les malheurs de mon amie me seraient, hélas, un garant de plus des soins qu'elle donnerait à l'éducation vertueuse de ma fille. Mais vous, Delphine, que deviendriez-vous si vous êtes coupable? Et par quel vain espoir vous flattez-vous de l'éviter? S'il gémit de votre résistance, s'il vous montre sa douleur, s'il vous la cache et que ses traits altérés le trahissent, s'il est malheureux enfin, dites-moi donc, si vous le savez, comment vous ferez pour le supporter? Écoutez, je suis prête à m'ensevelir pour toujours. La main de Dieu est déjà sur moi. J'ai trouvé, dans mon âme, la force de tout briser, de renoncer à tout. Eh bien, je ne me sentirai pas encore la puissance de voir souffrir ce que j'aime. Et vous, vous la croyez, cette puissance? Delphine, insensée, il faut vous séparer de lui pour jamais, ou tomber à ses pieds soumise à ses désirs. Vous ne pouvez trouver que dans l'exaltation d'un grand sacrifice des forces contre l'amour. Delphine, au nom du ciel! Arrêtez, s'écria Léonce avec l'accent le plus douloureux. Ce n'est point à Delphine que vous devez vous adresser. Elle est libre, et je suis liée pour jamais. Elle voulait s'unir à moi. Je l'ai méconnue. S'il faut déchirer un cœur, choisissez le mien. Je puis partir, je le puis. La guerre va bientôt s'allumer en France. J'irai me joindre à ceux dont je dois partager les opinions. Dans ce parti sans puissance, se faire tuer n'est pas difficile. Si vous avez dans votre religion des ressources pour faire supporter à Delphine la mort de Léonce, si vous en avez, j'y consens et je vous le pardonne. Mais pouvez-vous imaginer qu'après avoir passé près d'elle des jours orageux et néanmoins pleins de délices, des jours pendant lesquels je lui ai confié mes peines les plus secrètes, mes sentiments les plus intimes, je vivrai privé tout à la fois de ma maîtresse et de mon amie, de celle qui devrait être ma femme et que je ne reverrai plus, de celle qui dirige mes actions, donne un but à mes pensées et m'est sans cesse présente. Croyez-moi, sans avoir besoin de recourir à la résolution du désespoir, mon sang glacé cesserait de ranimer mon cœur si je ne vivais plus pour elle. Et c'est vous, madame, qui pouvez oublier tout ce que vous avez vous-même inspiré, tout ce qu'éprouve encore sans doute celui qui pleure loin de vous. C'en est trop, s'écria Thérèse en pâlissant, avec un tremblement convulsif qui me causa le plus mortel effroi. C'en est trop. Quel langage vous me faites entendre? Me croyez-vous donc assez guérie pour n'en pas mourir? Ignorez-vous ce qu'il m'en coûte? Pouvez-vous réveiller ainsi tous mes souvenirs? Cessez, cessez. Delphine, soutenez-moi, éloignons-nous d'ici. Léonce, inconsolable de l'état où il avait jeté Madame d'Hervin, n'osait approcher d'elle. On l'emporta dans sa chambre. Je la suivis et je fis dire à Léonce que je ne redescendrais pas. Je ne voulais pas quitter Madame d'Hervin, et je me sentais aussi dans un trouble qui me rendait impossible de parler à Léonce. Pourquoi le rendre témoin de mes cruelles incertitudes, des remords que Madame d'Hervin a fait naître en moi? Je veux me déterminer enfin, je le veux. mais je ne puis le revoir qu'après avoir pris une décision. Quelle sera-t-elle? Oh mon Dieu! Madame Dervin passa près d'une heure, sans prononcer une parole, m'écoutant quelquefois et ne me répondant que par des pleurs. Je crus que c'était le moment d'essayer encore de la détourner d'entrer au couvent. Les premiers mots que je prononçai sur ce sujet lui rendirent tout à coup du calme. Elle me demanda doucement de m'éloigner. J'ai appris depuis qu'elle avait passé 2 heures en prière, qu'après ces 2 heures elle s'était couchée et qu'elle avait paisiblement dormi jusqu'au matin. Pour moi, j'ai passé cette nuit sans fermer l'œil. Infortuné que je suis. Un esprit éclairé, quand l'âme est passionnée, ne fait que du mal. Je ne puis, comme Thérèse, adopter aveuglément toutes les croyances qui remplissent son imagination. Et mon cœur en aurait besoin. J'invoque une terreur, un fanatisme, une folie, un sentiment, quel qu'il soit, assez fort pour lutter contre l'amour. Quelquefois, je suis prête à vous conjurer de venir ici. Je voudrais m'en remettre à vous sur mon sort. Vous parleriez à Léonce, vous le verriez et vous me jugeriez. Ah, ma sœur, cette prière serait-elle trop exigeante? Feriez-vous ce sacrifice à celle que vous avez élevée et qui vous redemanderait d'exercer de nouveau l'empire le plus absolu sur sa volonté? Lettre 44. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 26 mai 1791. Non, ne venez pas. Tout est promis. Je le crois, tout est décidé. Thérèse a trop usé peut-être de l'empire que mon attendrissement lui donnait sur moi. Mais enfin, j'ai cédé à ses larmes, à l'ardeur de ses prières. Son imagination était frappée de l'idée qu'elle aurait à se reprocher la perte de mon âme. Son confesseur, je crois, l'avait encore, la veille, pénétré de nouveau de cette crainte. Sa douleur, son éloquence m'ont entièrement bouleversée. Je n'ai pas consenti, cependant, à m'éloigner de Léonce sans être rassurée sur son désespoir. Je ne le puis, je ne le dois pas. Le véritable crime serait d'exposer sa vie. Quel effroi peut l'emporter sur une telle crainte? Le remords même est plus facile à braver. Thérèse veut que Léon se soit témoin avec moi de la cérémonie qui consacrera le moment où elle doit prendre le voile de novice. Elle compte sur l'impression de cette solennité, et malgré la résistance qu'il a déjà opposée à ses prières, elle croit qu'au pied de l'autel, ses derniers adieux obtiendront de Léonce qu'il me laisse partir. Elle veut lui répéter alors ce dont elle est convaincue, c'est que son salut à elle-même dépend du mien et qu'il ne peut, sans barbarie, se refuser au dernier effort qu'elle veut tenter pour m'arracher au malheur qui me menace. Elle se croit sûre d'obtenir ainsi le consentement de Léonce. J'ai promis que si elle l'obtenait, en effet, je partirais à l'instant même. C'est dans 6 jours, et je dois, jusque-là, cacher à Léonce ce que j'éprouve, je l'ai juré. Je vous l'avoue, lorsque Thérèse m'a arraché tous les engagements qu'elle a voulus, j'avais un espoir secret que rien ne pourrait décider Léonce à mon départ. Mon opinion à présent n'est plus la même. Thérèse est si touchante. Le moment qu'elle a choisi pour parler à Léonce est si propre à l'émouvoir. J'y joindrai moi-même mes instances, je le dois, je le ferai. Mais se taire pendant ces 6 jours, le revoir avec l'idée que bientôt peut-être nous serons séparés. Thérèse a trop exigé de moi. Sa dévotion tout à la fois exaltée et romanesque m'ébranle, m'entraîne et ne me soutient pas. Elle m'a répété de 1000 manières, avec cet accent passionné qu'elle tient de l'amour et qu'elle consacre à la religion, que je ne pouvais pas me refuser à l'espoir qui lui restait encore de me sauver et d'obtenir l'absolution de ses fautes. « Je vous demande bien peu, me disait-elle. Je vous demande seulement la permission d'essayer, dans un moment solennel, si je puis attendrir votre amant sur le sort auquel il vous livre. Vous ne pouvez pas vous y opposer sans vous avouer à vous-même que, dût-il accéder à votre départ, vous n'en seriez pas capable. » Je résistais encore à ce qu'elle désirait. Une crainte vague me retenait. Mais lorsque j'étais prête à la quitter, elle s'est précipitée à mes pieds avec sa fille et m'a représenté avec une telle force ce que j'éprouverais si je me rendais coupable, ce qu'elle avait souffert. Parce que, éloignée de moi, une âme courageuse n'était point venue à son secours, elle a fait naître dans mon cœur une émotion si vive que j'ai consenti à tout. Qu'en arrivera-t-il? Une séparation déchirante. Je suis comme égarée. On dispose de moi sans que ma volonté me guide. Je ne sais ce que je dois craindre. Peut-être de tels efforts augmenteront-ils les dangers mêmes dont on veut me sauver. Ah, Léonce, c'est à vous qu'on s'en remet. Est-ce que vous briserez nos liens? Lettre 45. Léonce à Delphine. Paris, ce 28 mai. D'où vient le trouble que j'éprouve? Jamais vous ne m'avez paru plus touchante, plus sensible qu'hier. J'étais dans l'ivresse auprès de vous, et quand je me suis rappelé notre soirée, je n'ai éprouvé qu'une inquiétude, une tristesse indéfinissable. Je vous ai trouvé vous faisant peindre pour moi. Vous aviez revêtu un costume grec qui vous rendait plus céleste encore. Tous vos charmes se développaient à mes yeux. Je vous ai regardé quelque temps, mais je me sentais dévorée par une passion qui consumait ma vie. Le peintre nous a quittés. Je vous ai serré dans mes bras et deux fois vous avez penché votre tête sur mon épaule. Mais je ne vous avais point communiqué l'ardeur que j'éprouvais. Vos yeux se remplissaient de larmes, votre visage était pâle et votre regard abattu. Si, dans cet état, il eût été possible que votre cœur vous livrât à mon amour, il me semble qu'un sentiment inconnu mais tout-puissant m'eût interdit d'accepter le bonheur même. Je m'éloignais, je me rapprochais de vous, vous gardiez le silence. Cependant, vous m'aimiez, et j'éprouvais au-dedans de moi-même une fièvre d'amour, un frisson de douleur tout à fait inexplicable. J'ai voulu vous demander de prendre votre harpe. Vous savez combien vous me calmez en me faisant entendre votre voix unie à cet instrument. Ah, m'avez-vous répondu vivement, je ne puis pas supporter la musique, ne m'en demandez pas. Pourquoi ne pouvez-vous plus la supporter? Vous m'avez souvent répété ces paroles de Shakespeare. L'âme qui repousse la musique est pleine de trahison et de perfidie. Pourquoi la repoussez-vous? J'ai votre parole de ne jamais partir à mon insu. Je ne puis la révoquer en doute. Vous me l'avez de nouveau répété. Quelle est donc la cause de l'état où je vous ai vu? Ah, sentiriez-vous quelque atteinte de la douleur qui me tue? Sentiriez-vous qu'il faut mourir si nous ne nous appartenons pas l'un à l'autre? Non, vos yeux n'exprimaient ni l'entraînement ni l'abandon. Delphine, ton âme est si pure, si vraie, que rien ne peut la troubler sans que ton ami l'aperçoive. Dis-moi donc quel est le sentiment qui t'occupait hier. Lettre 46. Léonce à Monsieur Barton. Paris, ce 31 mai. L'un de vos amis vous a mandé qu'il m'avait trouvé changé et vous en êtes inquiet. Je vous en prie, rassurez-vous. Je souffre, mais il n'y a point de danger pour ma vie. J'ai assez souvent la fièvre le soir. Ce sont les peines de mon âme qui me la donnent. Depuis quelque temps, je crains sans cesse que Madame d'Albémare ne s'éloigne de moi. le trouble qu'elle me cause excite dans mon sang une agitation continuelle. Mais ce n'est pas, soyez-en sûr, la maladie qui me tuera. Ne venez point me voir, vous ne pourrez rien sur moi. Jamais on n'a ressenti ce que j'éprouve. Je sortirai de cet état, il faut qu'il finisse à quelque prix que ce puisse être, il le faut. Attendez mon sort. Je ne veux pas que votre vie paisible s'approche de la mienne. Une influence fatale tomberait sur vous. Lettre 47. Delphine à Léonce. Bellerive, ce 1er juin à 10 heures du matin. Madame Dervin m'écrit encore ce matin qu'elle désire vivement que vous soyez témoin de la cérémonie de ce soir. Venez me chercher à 4 heures pour me conduire à son couvent. Elle le veut. Nous ne pouvons pas le lui refuser. Lettre 48. Réponse de Léonce à Delphine. Paris, ce 1er juin à midi. Si vous l'exigez, j'irai. Mais essayez de m'en dispenser. J'ai peur des émotions. Vous ne savez pas, dans la disposition actuelle de mon âme, combien elles me font mal. Je serai chez vous à 4 heures. Mais s'il est possible, écrivez à Madame Dervin que vous irez seule. Lettre 49. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 2 juin. Si je ne suis pas encore tout à fait indigne de vous, ma Louise, je ne sais à quel secours du ciel je le dois. Méritais-je ce secours après des moments si coupables? Non, sans doute. Mais il m'a été donné pour me livrer à la douleur, pour expier par mes regrets ce jour où mes sentiments ont profané tout ce qu'il y a de plus respectable au monde. Je suis bien malade. On me croit en danger, on me défend d'écrire. Mais si je dois mourir, je veux que vous connaissiez les dernières heures que j'ai passées. Elles ont été terribles. Que le souvenir en demeure déposé dans votre sein. Apprenez quels sont les efforts qui, peut-être, ont précédé la fin de ma vie. Je crains que ma fièvre ne me fasse tomber dans le délire. Je n'ai peut-être plus que quelques instants pour recueillir mes pensées. Je vous les consacre encore. Aimez-moi. Si je meurs, je puis être pardonnée. Léonce, à regret, s'était enfin décidé à m'accompagner comme le désirait Madame Dervin. Nous arrivons à la porte du couvent où je l'avais conduite la veille et près duquel demeurait son confesseur. Un homme m'y attendait pour me remettre une lettre d'elle qui m'apprenait qu'elle serait reçue novice, dans quel lieu, juste ciel, dans l'église même où j'ai vu Léonce se marier. Thérèse me l'avait cachée, mais c'était sur ce moyen qu'elle comptait pour triompher de notre amour. J'hésitais, je l'avoue, si je continuerais ma route. Mais la fin de la lettre de Thérèse était tellement pressante, elle me disait avec tant de force qu'elle avait besoin de me revoir encore, que je lui percerais le cœur en la privant dans un tel moment de la présence de sa seule amie que je n'eus pas le courage de la refuser. Léonce, cette fois, voyant dans quel état d'émotion j'étais, insista pour ne pas m'abandonner seule à cette épreuve douloureuse. J'étais déjà dans un tel trouble que je cessais de vouloir, et je me laissais conduire sans réflexion ni résistance. Pendant la route qui nous restait encore à faire, nous gardâmes l'un et l'autre le plus profond silence. Néanmoins, à l'instant où ma voiture tourna dans le chemin qui conduit à l'église de Sainte-Marie, Léonce, reconnaissant les lieux qu'il ne pouvait oublier, dit avec un profond soupir. C'était ainsi que j'allais avec Mathilde. Elle était là, s'écria-t-il en montrant ma place. Oh, pourquoi suis-je venu? Je ne puis. Il semblait vouloir fuir, mais en me regardant, ma pâleur et mon tremblement le frappèrent sans doute, car, s'arrêtant tout à coup, il ajouta. « Non, pauvre malheureuse, tu souffres. Je ne te laisserai point souffrir seule. Appuie-toi sur ton ami. » Nous descendîmes de la voiture. L'église était fermée pour tout le monde excepté pour nous. Un vieux prêtre vint à notre rencontre, et se souvenant mal des deux personnes qu'on l'avait chargé de recevoir, il me dit en montrant Léonce. « Madame, monsieur est sans doute votre mari. » Ah, Louise, ce mot, si simple, réveillait tant de regrets et tant de remords, que je restais comme immobile devant la porte de l'église, n'osant en franchir le seuil. Léonce prit la parole avec précipitation. « Je suis le parent de madame, » répondit-il. Et, m'entraînant après lui, nous entrâmes. Le prêtre nous fit asseoir sur un banc peu éloigné de la grille du chœur. Léonce se plaça de manière qu'il ne put apercevoir l'autel devant lequel il s'était marié. Sa respiration était haute et précipitée. Moi, j'avais couvert mes yeux de mon mouchoir, je ne voyais rien, je pensais à peine. J'éprouvais seulement une agitation intérieure, une terreur sans objet fixe qui troublait entièrement mes réflexions. L'une des portes qui conduisait dans l'intérieur du couvent s'ouvrit. Des religieuses couvertes d'un voile noir, suivies par l'infortunée Thérèse vêtue d'une robe blanche, s'avancent à quelque distance de nous, dans un profond silence. Thérèse s'appuyait sur le bras de son confesseur. Mais ses pas n'étaient point chancelants. On pouvait même remarquer qu'une exaltation extraordinaire les rendait trop rapides. Pendant qu'elle marchait, les prêtres chantaient un psaume lugubre, qu'accompagnait un orgue assez doux. Thérèse quitta les religieuses pour venir vers moi. Elle me serra la main avec une expression que je ne pourrai jamais oublier. Et, tendant une lettre à Léonce, elle lui dit à voix basse. Quand la barrière éternelle sera refermée sur moi, lisez ce papier dans cette église même, à la lueur de cette lampe qui brûle à quelques pas de l'autel où vous avez prononcé d'irrévocables serments. Écoutez, pour vous préparer à ce que j'ose vous demander, les chants des religieuses qui vont concentrer mon entrée dans leur asile. Quand ils auront cessé, je n'existerai plus pour le monde. Mais si vous exaucez mes prières, vous me réconcilierez avec Dieu. Je ne serai plus coupable devant lui de votre perte à tous les deux. Et toi, mon ami, me dit-elle, tu vois où l'amour m'a conduite. Fuis mon exemple, adieu. En achevant ces mots, elle s'approcha de la grille du chœur, tourna la tête encore une fois vers moi, et dans le moment où cette grille allait nous séparer pour toujours, elle me fit un dernier signe, comme sur les confins de la terre et du ciel. Je crus l'avoir passée de la vie à la mort, et dans l'éloignement, elle m'apparaissait telle qu'une ombre légère, déjà revêtue de l'immortalité. Léon s'était resté immobile, tenant à la main la lettre de Thérèse. « Que contient-elle ? » me dit-il, avec l'accent le plus sombre. « Que voulez-vous de moi ? » « Seriez-vous d'accord avec elle ? » ?»« Je vous en conjure, » interrompis-je. « Obéissez à la prière de Thérèse. Ne lisez point encore ce qu'elle vous écrit. Donnez un moment à la pitié pour elle. Je suis là près de vous, mon ami. Ah ! Pleurons encore quelques instants sans amertume. » Léonce, placé derrière moi, posa sa main sur le pilier qui me servait d'appui. Ma tête tomba sur cette main tremblante, et ce mouvement, je crois, suspendit quelque temps son agitation. La musique continua. L'impression qu'elle me causait me plongea dans une rêverie extraordinaire dont je n'ai pu conserver que des souvenirs confus. Bientôt, J'entendis les sanglots étouffés de mon malheureux ami, et je m'abandonnai sans contrainte à mes larmes. J'invoquai Dieu pour mourir dans cette situation. Elle était pleine de délices. Je n'imposai plus rien à mon âme. Elle se livrait à une émotion sans bornes. Il me semblait que j'allais expirer à force de pleurs, et que ma vie s'éteignait dans un accès immodéré d'attendrissement et de pitié. Je ne sais combien de temps dura cette sorte d'extase, mais je n'en fus tiré que par le bruit que firent les rideaux du cœur lorsqu'on les ferma. La cérémonie terminée, les religieuses et les prêtres s'étant retirés, nous n'entendîmes plus, nous ne vîmes plus personne, et nous nous trouvâmes seuls dans l'église, Léonce et moi. Léonce, sans quitter ma main, s'approcha de la lumière et lut la prière solennelle, éloquente et terrible, que Thérèse lui adressait pour l'engager à sauver mon âme en rompant nos liens et en cessant de nous voir. Je ne pus en saisir que quelques paroles qu'il répétait en frémissant. À peine l'eut-il fini que, levant sur moi des yeux pleins de douleur et de reproches, il me dit « Est-ce vous qui avez combiné ces émotions funestes? Est-ce vous qui avez résolu de me quitter ?»« Consentez, lui dis-je avec effort, consentez à mon absence. Léonce, je t'en conjure, cède à la voix du ciel que Thérèse t'a fait entendre. Ne sens-tu pas que les forces de mon âme sont épuisées? Il faut que je m'éloigne ou que je devienne criminel. Un plus long combat n'est pas en ma puissance. Saisissons cet instant. » Il est donc vrai, reprit Léonce, il est donc vrai que vous avez formé le dessein de me quitter, que tant de jours passés ensemble n'ont point laissé de traces dans votre cœur. Oui, c'en est fait. Il n'y aura plus sur cette terre une heure de repos pour moi. Et quand devait-elle commencer, cette séparation? Alors même, m'écriai-je, tout est prêt, l'on m'attend. Laissez-moi partir, que ce lieu soit témoin de ce noble effort. Il sera témoin, s'écria-t-il, de ma mort. Je me sens abattu, je n'ai plus l'espérance qui pourrait m'aider à triompher de votre dessein. Je me suis trompé. Vous n'avez pas d'amour, vous n'en avez pas, vous pouvez partir. Eh bien, le sacrifice est fait, vous le pouvez. Adieu. Louise, jamais la douleur de Léonce n'avait été si profonde et si touchante. Elle avait changé son caractère. Il n'essayait pas de me retenir, mais je voyais dans son regard une expression funeste, une désignation sombre qui me glaçait de terreur. J'essayais de lui parler, il ne me répondait plus. Je ne pouvais supporter qu'il eût cessé de croire à ma passion pour lui. 10 fois il en repoussa l'assurance et semblait craindre les sentiments les plus doux, comme si, décidé à mourir, il avait eu peur de regretter la vie. Enfin, un accent plus tendre le ranima tout à coup, mais pour lui rendre un égarement non moins effrayant que l'accablement dont il sortait. « Eh bien, me dit-il, si tu veux que je croie à ton amour, si tu veux que je vive, il en existe encore un moyen. Il peut seul expier ce que tu m'as fait souffrir. Il peut seul prévenir les tourments qui m'attendent. Il faut te lier, à l'instant même, par un serment que tu nommeras sacrilège, mais sans lequel aucune puissance humaine ne peut me faire consentir à la vie. « Que veux-tu de moi ? » lui dis-je, épouvanté. « Ne sais-tu pas que je t'adore ? N'es-tu pas le souverain de ma vie ?»« Qui pourrait compter, me répondit-il avec amertume, qui pourrait compter sur ton âme incertaine, combattue, toujours prête à m'échapper ? Il n'est qu'un lien sur la terre. Il n'en est qu'un qui puisse répondre de toi. Et ce moment de désespoir est le dernier où la passion, toujours repoussée, toujours vaincue par chaque nouveau repentir, puisse te demander, puisse obtenir l'engagement de ton amour. Qu'il soit donné dans ces lieux mêmes dont tu invoques sans cesse contre moi les cruels souvenirs. Que l'horreur même de ce séjour consacre ta promesse ou ton refus irrévocable. Viens, suis-moi. Je sentais qu'il voulait m'entraîner vers l'autel fatal, près de la colonne, derrière laquelle j'avais été témoin de son malheureux mariage. Nous en étions encore à quelques pas, et je m'appuyais sur l'un des tombeaux que des regrets pieux ont consacrés dans cette église. « Restons ici, » dis-je à Léonce. « Reposons-nous près des morts. » « Non, » me dit-il, avec une voix qui retentit encore dans tout mon être, « ne résiste point, suis mes pas. » Les forces me manquaient. Il passa son bras autour de moi et, entraîné par lui, je me trouvai précisément en face de l'autel où le sacrifice de mon sort avait été accompli. Je regardais Léonce, cherchant à découvrir sa pensée. Ses cheveux étaient défaits, sa beauté plus remarquable que dans aucun moment de sa vie, avait pris un caractère surnaturel et me pénétrait à la fois de crainte et d'amour. « Donne-moi ta main, s'écria-t-il, donne-la-moi. S'il est vrai que tu m'aimes, tu dois, infortuné, tu dois avoir besoin comme moi de bonheur. Jure sur cet autel, oui, sur cet autel même dont il faut à jamais écarter le fantôme horrible d'un humain odieux. Jure de ne plus connaître d'autres liens, d'autres devoirs que l'amour. Fais serment d'être à ton amant ou je brise à tes yeux ma tête sur ces degrés de pierre qui feront rejaillir mon sang jusqu'à toi. C'en est trop de douleur, c'en est trop de combat. C'est dans ce sanctuaire, triste asile des larmes, que j'ose déclarer que je suis là de souffrir. Je veux être heureux, je le veux. La trace de mes chagrins est trop profonde. Rien ne peut faire cesser mes craintes. Je te verrai, toujours prête à m'échapper, si des liens chers et sacrés ne me répondent pas de notre union. Le poids que je soulève pour respirer l'air m'oppresse trop péniblement. Il faut que je m'enivre des plaisirs de la vie, ou que la mort m'arrache à ses peines. Si tu me refuses, Delphine, tiens, les lieux sont bien choisis. Sous ces marbres sont des tombeaux. Indique la pierre que tu me destines. Fais-y graver quelques lignes, et tu seras quitte envers mon sort. Que reste-t-il de tant d'hommes infortunés comme moi? Des inscriptions presque effacées, sur lesquelles le hasard porte encore quelquefois nos yeux inattentifs. Delphine, la mort est sous nos pas. Repousse ton amant dans l'abîme ou viens te jeter dans ses bras. Il t'enlèvera loin de ces voûtes funestes et nous retrouverons ensemble et le ciel et l'amour. Ses regards me causaient une terreur inexprimable. Je lui dis, « Léonce, sortons d'ici, je ne partirai pas. Que veux-tu de moi? Sortons d'ici. » « Non, s'écria-t-il en me retenant avec violence, dans une heure tu reprendras sur moi ton funeste empire. Je recommencerai cette misérable vie de tourments, de craintes, de regrets. Non, ce jour terminera cette existence insupportable. Ton âme doit sentir en cet instant ce qu'elle peut pour moi. Si tu résistes à l'état où je suis, au trouble qu'il te cause, c'en est fait, nos nœuds sont brisés. Fais le serment que j'exige, ou laisse-moi. Reviens seulement demain à la même heure. Les prêtres chanteront pour moi les mêmes hymnes que pour ton ami. Tu seras seul au monde. » Delphine. Pauvre Delphine, ainsi séparée de tout ce qui te fut cher, ne regretteras-tu donc pas le malheureux insensé qui t'a si tendrement aimé? Louise, mon cœur s'égarait. Cruel, m'écriai-je, quoi, c'est dans ce lieu même que tu peux exiger une semblable promesse? Oses-tu donc profaner tout ce qu'il y a de saint sur la terre? Je veux, reprit Léonce, te lier pour jamais. Je veux affranchir ton âme violemment et sans retour de tous les scrupules vains qui la retiennent encore. Delphine, si nous étions au bout du monde, si les volcans avaient englouti la terre qui nous donna naissance, les hommes que nous avons connus, croirais-tu faire un crime en t'unissant à ton amant? Eh bien, oublie l'univers, il n'est plus, il ne reste que notre amour. Tu ne l'as jamais connu, l'amour, fille du ciel. Aucun mortel n'a possédé tes charmes. Quand ton âme sera tout entière livrée à moi, tu m'aimeras d'une affection que tu ne peux encore comprendre. Il naîtra pour nous deux une seule et même vie dont nos existences séparées n'ont pu te donner l'idée. Dis-moi donc, ne sens-tu pas ce que j'éprouve? Un élan du cœur vers la félicité suprême, un délire d'espérance qu'on ne pourrait tromper sans que l'avenir fût flétri pour toujours? Écoute, Delphine, si tu sors de ces lieux sans que ta volonté soit vaincue, sans que tes desseins soient irrévocablement changés, j'en ai le pressentiment, tout est fini pour moi. Tu auras horreur de ma violence, tu ne te souviendras que d'elle. Delphine, c'en est fait. Prononce. Jamais la mort ne fut plus près de moi. Quand tout mon sang, s'écria-t-il en frappant avec violence sa poitrine, quand tout mon sang sortit de cette blessure, j'avais mille fois plus de chance de vie qu'en cet instant. Qui pourrait, juste ciel, se faire l'idée de l'expression de Léonce alors? Il était tellement hors de lui-même que je ne doutais pas du plus funeste dessein. J'allais perdre tout sentiment de moi-même. J'allais promettre, dans le sanctuaire des vertus, d'oublier tous mes devoirs. Je me jetai à genoux, cependant, par une dernière inspiration secourable, et j'adressai à Dieu la prière qui sans doute a été entendue. Ô Dieu, m'écriai-je, éclairez-moi d'une lumière soudaine. Tous les souvenirs, toutes les réflexions de ma vie ne me servent plus. Il me semble qu'il se passe en moi des transports inouïs qu'aucun devoir n'avait prévus. Si tant d'amour est une excuse à vos yeux, si, quand de tels sentiments peuvent exister, vous n'exigez pas des forces humaines de les combattre, suspendez cet effroi que j'éprouve encore pour un serment que je crois impie. Éloignez le remords de mon âme, et qu'oubliant tout ce que j'avais respecté, je fasse ma gloire, ma vertu, ma religion, du bonheur de ce que j'aime. Mais si c'est un crime que ce serment demandait avec tant de fureur, ô mon Dieu, ne me condamnez pas du moins à voir souffrir Léonce. Anéantissez-moi, à l'instant, dans ce temple saint, tout rempli de votre présence. Des sentiments d'une égale force s'emparent tour à tour de mon âme. Vous pouvez seul faire cesser cette incertitude horrible. Ô mon Dieu, la paix du cœur ou la paix des tombeaux, je l'appelle, je l'invoque. Je ne sais ce que j'éprouvais alors, mais la violence de mes émotions surpassant mes forces, je crus que j'allais mourir. Et, frappé de l'idée qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans cet effet de ma prière, en perdant connaissance, je pus encore articuler ces mots. Ô mon Dieu, vous m'exaucez. Léonce m'a dit, depuis, qu'il se persuada, comme moi, que j'étais frappé par un coup du ciel, et qu'en me relevant dans ses bras, il douta quelques instants de sa vie. Il me porta jusqu'à ma voiture, et j'arrivai à Belle-Rive sans avoir repris mes sens. Lorsque j'ouvris les yeux, je trouvai Léonce au pied de mon lit. Je fus longtemps sans me rappeler ce qui s'était passé. comme le jour commençait à paraître, mes souvenirs revinrent par degrés. Je frémis de ce qu'ils me retracèrent. Le remords, la honte, une vive impression de terreur me saisit, en me rappelant dans quel lieu l'on m'avait demandé des serments criminels. Je détournai mes regards de Léonce. Je le conjurai de me quitter, de retourner chez lui, calmer l'inquiétude que son absence devait causer à Mathilde. Je vis à son trouble qu'il craignait les résolutions que je pourrais former. Je lui jurai de l'attendre ce soir. Oh, je ne puis pas partir. Je n'ai plus la force de rien. Louise, je crois, en effet, que ma prière a été réellement exaucée. Ce que j'éprouve ressemble aux approches de la mort. J'ai pu, du moins, écrire jusqu'à la fin ce récit terrible. Vous saurez, quoi qu'il m'arrive, quel combat j'ai soutenu. Quelle douleur. Ah, ce seront les dernières. Adieu, Louise, ma main tremble. Je sens ma raison troublée. Avec mes dernières forces, avec mon dernier accent, je vous dis encore que je vous aime. Lettre 50. Madame de Lébancé à Mademoiselle d'Albémare. Paris, ce 4 juin 1791. Je suis bien malheureuse, mademoiselle, d'avoir à vous causer la peine la plus cruelle. Madame d'Albémare est à toute extrémité. On l'a transportée à Paris dans le délire, et ce qu'elle dit dans cet état fait trop voir que les peines de son cœur sont la cause de la maladie dont elle est atteinte. S'il en est encore temps, venez près d'elle. Monsieur de Mondeville est dans un état qui ne diffère guère de celui de Delphine. Mon mari seul conserve assez de présence d'esprit pour secourir ces deux infortunés. Madame d'Albémare a déjà prononcé plusieurs fois votre nom. Ah, que n'êtes-vous ici? Que ne nous reste-t-il du moins l'espérance que vous y arriverez à temps?